patients dans des situations concrètes. Bon, tout ce qu'on demande depuis des années vise à ce que les gens, quand ils sont dans leur travail, aient sur leur propre travail une plus grande prise. Bon, c'est de ce côté-là, les lois Auroux font avancer les choses dans la mesure où maintenant il va y avoir des débats normalement pris sur le temps de travail dans chaque atelier, sur l'organisation du travail, sur ce qu'on y fait. Bon, la façon dont ce sera fait, si c'est les contremaîtres évidemment qui organisent le débat, ce ne sera pas du tout la même chose que si c'est les représentants du syndicat ou les ouvriers eux-mêmes.
Oui, ça bon. Dépend si on traitera de l'efficacité au travail ou une...
C'est ça, ça peut être, c'est comme, ça peut être la meilleure des choses ou la pire. Mais si les ouvriers arrivent à prendre en main eux-mêmes ces débats, il est certain que ça peut permettre, parce que quand même, les gens qui savent ce qu'il faut faire dans le travail, c'est les gens qui le font. Et que ce soit dans les grosses boîtes ou dans les petites boîtes, c'est vraiment l'ouvrier qui fait le travail, qui connaît la façon dont ça se passe et la façon dont on peut le mieux le faire, beaucoup mieux que le cadre d'organisation ou le contremaître d'encadrement. Mmh. Alors, d'une part, on peut améliorer les choses et puis éviter de gaspiller du temps ou du matériel. Puis d'autre part, le gars peut justement dire dans quelles conditions il se sent le mieux et puis les rythmes surtout. Maintenant, on travaille avec des rythmes souvent... Bon, complètement ridicule. Les gens sont complètement épuisés à la fin de la journée. Bon, peut-être moins en France qu'en Suisse, mais enfin, quand même, les rythmes de travail sont souvent trop forts pour les gens. Mm. Bon, dans les boîtes d'automobiles, c'est particulièrement criant, quoi. Alors, il est bien évident que, à l'occasion des débats sur telle boîte ou sur telle situation, ou ça se débat à l'intérieur du syndicat, dire qu'on arrive à des conclusions, bon, chaque fois qu'il y a un congrès, en général, le syndicat sort un texte général qui résume l'ensemble des débats qui ont lieu.
Ouais.
Mais la réflexion, elle se fait sans arrêt. Nous ici, on a des... Bon, chaque syndicat discute à l'intérieur de lui-même. Entre les syndicats, sur le plan interprofessionnel, on discute en union locale, et puis en union départementale, et puis en union régionale. Donc c'est des réunions qui ont lieu une fois tous les mois, une fois tous les trois mois, suivant la structure, où on ramène chacun son expérience, et puis où le débat porte sur les points qui sont justement en cours d'évolution. Mmh. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une position figée un jour à l'avance, quoi. La position, elle est comme ça, et puis il y a d'autres éléments qui font qu'on avance, ou on change, ou on modifie un peu notre point de vue. Alors bon, et puis en général, c'est le Conseil national qui se réunit une fois tous les, je crois que c'est tous les trois mois. C'est le jour où on voit Edmond Maire à la télé. Et puis il dit à peu près ce qu'ils ont discuté pendant les deux ou trois jours qu'ils ont eu. Là, ils en ont eu un, je crois, la semaine dernière, qui a duré deux jours ou trois, deux jours et demi, où ils ont vu les grandes lignes de la situation. Mais...
Et... moi, je voudrais aussi savoir, donc, à propos d'un autre domaine de réflexion, que fonctionnent les syndicats, c'est comment ils se situent face à la nouvelle orientation industrielle française. C'est-à-dire qu'on entend beaucoup parler en ce moment de restructuration indispensable, de relance pour se retrouver dans les domaines de pointe, à la pointe justement. Et ça, moi quand j'entends ça, je trouve que ça ressemble vraiment énormément à ce que pouvait dire Giscard, et que en plus les domaines de pointe recensés par le gouvernement de gauche sont les mêmes que ceux recensés par le gouvernement de droite avant. Bon, c'est peut-être pas c'est peut-être difficile de faire autrement, mais j'ai l'impression que ça se place exactement dans la même logique. Et donc j'aimerais savoir, moi, au niveau des syndicats, si vous réfléchissez à partir de ce qui est donné comme base par les gouvernements, ou est-ce que vous avez une propre un propre développement.
C'est-à-dire, je crois que bon, c'est clair qu'on se démarque de plus en plus des gens qui sont au gouvernement. Non, on a, alors justement, on ne part pas du tout, disons, de leur point de départ à eux. Nous, on a nos réalités sur le terrain qui sont souvent beaucoup plus petites, et puis on voit les choses d'une façon concrète. Mais on s'aperçoit en ce moment qu'effectivement, on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde qu'eux. Eux, en général, effectivement, les gens qui sont maintenant au gouvernement dans le Parti Socialiste, ce n'est pas tellement des gens de la base, hein. Alors ils n'ont pas du tout les mêmes préoccupations que nous. Nous, on voit les choses beaucoup plus en termes de ce que ça veut dire pour chaque personne et puis comment on le vit quotidiennement. Et puis c'est clair qu'effectivement, enfin là c'est mon opinion personnelle, parce que je crois que je sais pas très bien, on n'en a pas tellement débattu globalement hein, dans le syndicat, donc je ne peux pas donner une opinion syndicale. Mais effectivement, ça paraît... Bon, c'est des mots, c'est des mots, c'est des mots.
Et moi, bon, j'avais lu dans un bouquin de mon maire, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, des réflexions qu'il avait sur l'évolution de la société. Et bon, apparemment, dans la CFDT, on se posait des questions qui peuvent paraître débordées du cadre strict syndical, mais bon, qui correspondent au fait que... pour moi, actuellement, si on se base simplement sur le fait de sauver les emplois, de garder de maintenir le pouvoir d'achat, on se place dans une logique qui est tout à fait capitaliste occidentale et on n'arrivera jamais à s'en sortir, non?
C'est-à-dire
Est-ce que quand vous parlez des situations, vous dites on est obligé de se battre pour sauvegarder quand même aussi le pouvoir d'achat chez des gens qui ont besoin de ce fric-là pour vivre et tout. Mais alors, est-ce que vous regardez ensuite un peu plus loin en disant on fait ça parce qu'on est obligé, mais en même temps ça nous mène dans un chemin qui n'est pas du tout celui qu'on a dans la tête?
Oui, c'est clair. Dans la situation actuelle, il faut que les gens arrivent à recevoir une certaine somme tous les mois pour pouvoir manger et se vêtir. Bon, la plupart des gens qui sont syndiqués sont des gens qui sont avec des petits salaires. Quand on prend les gens qui sont syndiqués dans le pays de Gex, ils sont à peu près tous au niveau du SMIC. Mmh. Parce que les gens qui sont au SMIC dans le pays de Gex, ça existe. On dit que c'est un pays riche où tout le monde a beaucoup d'argent. Mais justement, les gens qui sont syndiqués sont souvent ceux qui sont au niveau du SMIC ou juste au-dessus. Donc, ce qu'ils reçoivent, c'est pas énorme. Et puis, effectivement, pour eux, il faut au moins maintenir ça parce que
par rapport aux autres.
C'est ça, parce que la vie augmente et puis qu'ils ont des gosses et puis qu'il faut envoyer les gosses à l'école tous les jours avec des vêtements propres et puis avec des vêtements pas troués et puis qu'il faut en racheter et puis tout ça, quoi.
Bon. Oui, mais alors, donc ça nous entraîne, ça, dans une logique qui...
Oui, mais effectivement, on n'a pas la capacité de battre en brèche toute la mécanique. Mais c'est clair qu'on peut se poser la question que la troisième révolution industrielle, ça peut être intéressant ou pas, comme la deuxième ou comme la première. C'est pas forcément intéressant. Et justement, comment est-ce qu'on pourrait arriver à ralentir le rythme et puis à vivre sans avoir forcément besoin de tous ces gadgets et tous ces machins.
C'est-à-dire que vous partez des... Donc, vous acceptez la troisième révolution industrielle en essayant de profiter du fait que c'est donc justement une révolution et que les cartes ne sont pas encore toutes distribuées pour qu'elles soient redistribuées plus favorablement pour les ouvriers, les employés.
C'est beaucoup dire qu'on l'accepte, hein. Parce qu'on ne nous a pas demandé notre avis au départ, et puis de toute façon, on peut le donner, on l'écoute pas. C'était particulièrement irritant d'entendre Mitterrand, quand il était au CERN, parler de la troisième révolution industrielle, quand on sait ce que c'est que le CERN, et puis l'espèce d'arrogance de sa direction, et puis tout ce que ça représente comme autorité, comme autocratisme, et comme... choix non discuté, en somme. Alors effectivement, quand on demande plus de démocratie, c'est surtout ça finalement, parce que on voudrait que les gens soient plus à même et aient le temps et l'énergie de prendre en charge leur propre vie et leur propre choix. Et dans un sens, c'est ça qu'on essaye de faire d'abord pour nous. Oui, pour nous, le premier effort, il est là, c'est que les gens se prennent en charge. Puis c'est pour ça qu'on croit aussi beaucoup à la régionalisation et aux institutions locales, pour que petit à petit, on arrive à contrôler là où on est, ce qu'on fait. Et effectivement, c'est le contraire un peu de la troisième révolution industrielle, où on a tout par ordinateur, par computer, par communication, télé machin, télé chose, et puis où personne ne sait plus ce qu'il fait. On n'est pas tellement en mesure de dire non à la troisième révolution industrielle. On essaye simplement d'arriver à ce que chacun puisse contrôler son mode de vie. Ben, on en est loin. Hein.
Parce que des fois, moi, j'ai l'impression que, on arrive à cette troisième révolution industrielle et que les syndicats, en quelque sorte, en permettant aux gens de ne pas trop se faire écraser par ça, ils permettent à cette révolution aussi de se passer et ils adoucissent les angles, et que bon, à la limite, si ça se passait sans qu'on aménage, ça serait tellement dur qu'on pourrait le refuser, non?
Bah, c'est-à-dire le refuser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens, ils tombent dans quoi? Ils mangent plus à leur faim?
Est-ce que c'est vrai, ça?
Ah oui, t'as quand même beaucoup de gens qui ont encore du mal à manger en France.
Oui.
Et puis bon, il y a qu'à voir, enfin, dans les banlieues de grandes villes, quoi. T'as des tas de jeunes qui ont du mal à tourner tous les jours. Il y a quand même déjà beaucoup de gens qui la prennent en pleine gueule, la soi-disant troisième révolution, enfin, disons la transition.
Oui.
Mais effectivement...
Justement, les syndicats, ils permettent aux gens de la faire plus en douceur, mais justement, ils permettent qu'elle arrive.
Je suis pas sûre que... Bon, les syndicats, attention, les syndicats, c'est les gens organisés collectivement.
Hein. Oui.
Il n'y a pas une, tu vois, une force syndicale extérieure.
Non, mais le système syndical, disons.
Oui, bah, c'est-à-dire que les gens résistent quand ils ont envie de résister. Alors que, tu sais, il y en a beaucoup qui se laissent écraser. Hein. Des pour 20 qui résistent, il y en a 2000 qui se laissent faire. Hein. Alors dire qu'on empêche que ça se passe plus mal, je sais pas. Je dois dire, j'ai pas tellement de réponses, hein, parce que je vois pas très bien comment on peut l'aménager pour... Soit pour pas que ça ait lieu, ou pour que ça soit pas plus aliénant que ce qu'il y avait avant, ou pour que ce soit moins aliénant que ce qu'il y a avant, ou ce qu'il y a maintenant. Je dois dire, j'ai pas tellement de réponses là-dessus. Ça, ce serait un débat à avoir à plusieurs, et puis à discuter longuement, mais... Moi, je suis pas tellement capable de dire. Tu veux, effectivement, les gens réagissent sur une structure, sur une situation personnelle et particulière, puis ils s'organisent en syndicat, puis ils se défendent. Dire que ça permet de passer, ouais, c'est douloureux quand même, la défense. Dans un sens, sans ça, se défendre, c'est plus anesthésiant. Hein.
Ça, bon, donc ça, on n'arrivera pas à discuter assez. En plus, il y a une émission qui doit nous suivre. Là.
Oui,
déjà, on leur a pris beaucoup de temps. Et je voulais juste poser donc. Toi, pourquoi t'es syndiqué donc? Est-ce que c'est quelque chose qui... Parce que t'as toujours été, ou est-ce que c'est... Tu t'es beaucoup... Oui, non, mais bon, par exemple, ça pourrait être traditionnellement tes parents qui étaient déjà syndiqués, et donc quand t'as travaillé, c'était pour toi évident d'être syndiqué, ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu après une réflexion en disant bon, moi je travaille, j'ai envie d'avoir un contrôle sur la manière dont je travaille et donc je m'inscris à un syndicat ou...
Bah, c'est-à-dire, bon, ma mère était syndiquée et active, mais ça m'avait jamais donné envie d'être syndiquée ni d'être active syndicalement. Simplement, quand j'ai commencé à travailler, j'ai découvert que je supportais mal d'être enfermé 8 heures dans une boîte à la disposition d'un chef, et pour faire éventuellement des trucs comme les chefs disaient, même si c'était idiot et si j'aurais pu proposer quelque chose de moins idiot. Et puis dans la situation de travail, il y a beaucoup de choses qui me paraissaient vraiment insupportables. J'étais pas parmi ceux qui étaient dans la situation la plus pénible, et puis j'ai souvent trouvé que c'était aussi insupportable de voir d'autres gens humiliés ou mis dans des situations désagréables parce qu'ils étaient dépendants d'un salaire et parce qu'ils étaient obligés de le subir. Même ma première réaction n'a pas été de me syndiquer au début, je pensais qu'on pouvait chacun résister de son côté, etc. Puis c'est finalement en vieillissant que je me suis dit que c'était quand même la meilleure solution. De s'organiser à plusieurs pour essayer justement de changer les choses. Et puis d'arriver à vivre d'une façon un peu moins imbécile, quoi. Autant la vie de travail que la vie quotidienne. Et puis finalement, quand on est dedans, c'est quand même un lieu d'amitié, c'est un lieu de solidarité. C'est quelque chose où on vit bien, finalement. C'est un lieu de vie, le syndicat.
Et est-ce que ça te donne envie, en dehors donc du travail, de partager d'autres activités collectivement? Est-ce que ça t'a habitué à, justement, à, comme tu dis, à apprécier le fait que les choses se passaient collectivement, et donc le reproduire à l'extérieur, parce que bon, souvent les gens, leur seul lieu collectif, c'est le travail.
Oui, bah tu sais, à partir du moment où moi j'ai des gosses, il y a tous les copains des gosses, ça fait déjà une bonne vie collective. Mmh. Et puis, oui, finalement, parce que, enfin, je sais pas ce que tu appelles vivre collectivement.
Non, c'est-à-dire que bon, quand tu fais quelque chose, il y a des gens qui font tout seul, justement, repliés sur leur famille, ou qui essayent de dire, tiens, ça, on peut le faire à plusieurs. Ou...
Oh ben non, nous, effectivement, la famille n'est pas un lieu de repli, c'est plutôt un lieu d'ouverture, où on se rencontre avec pas mal de gens, et où, non, effectivement, j'ai pas une vie repliée sur la famille. Et... Non, effectivement, on a plutôt une vie de type collectif, c'est-à-dire qu'on fait effectivement beaucoup de choses avec d'autres gens extérieurs à la famille, si c'est ça. Quitte à aller se balader ou passer un moment ensemble, mmh. Effectivement, on a plus une vie tournée vers l'extérieur, vers d'autres gens, sans que ce soit dans des organisations.
Oui, oui, c'est pas obligatoire.
Hein. C'est pas obligatoire, oui, c'est sûr. Non, je pense pas qu'une vie familiale, uniquement à l'intérieur d'une cellule familiale, ce soit très, très enrichissant ni très marrant. Ça, à la fin, ça doit être assez étouffant même. Mm. Mais c'est vrai qu'effectivement, je suis plutôt tournée vers l'extérieur aussi.
Et ça, tu penses, c'est quelque chose qui est, que tu as vécu depuis longtemps et qui aussi t'a amené donc à participer à la vie syndicale, ou est-ce que le fait de participer à la vie syndicale, ça a un retour sur ta vie personnelle?
Je ne saurais pas dire comme ça. Hein.
Non.
Il ne faut pas faire très attention. Oh, les deux choses sont quand même liées. Bon, le seul inconvénient avec la vie syndicale, c'est que vu que tu fais ça en plus de ton temps de travail, bon, en France, de plus en plus, heureusement, les gens qui sont délégués syndicaux ont des heures de délégation. Oui. Donc, ils peuvent faire ça pendant leurs heures de travail. Et ça empiète beaucoup moins qu'autrefois sur les loisirs. Mm. Mais dans le pays de Gex, vu qu'on vit une façon encore un peu primitive, et puis qu'en Suisse...
C'est des petites boîtes en plus, non ?
Oui, et puis pour ceux qui travaillent en Suisse, il n'y a pas les lois françaises. Ouais. Enfin, ce n'est pas les mêmes lois. Donc, c'est pareil. En Suisse, c'est fait hors du temps de travail. Ouais. Bon, les loisirs en prennent un sacré coup quand même. Mmh. Donc, ça a effectivement des répercussions.
D'accord. Bien, on va s'arrêter là, parce que déjà...
Il est trop tard.
L'émission suivante s'impatiente beaucoup. D'accord. Et on arrête là pour cette déviation. Je vous rappelle, juste avant de vous quitter, que la semaine prochaine, ça sera un des dirigeants de la radio Alpe 1 avec laquelle on est condamné à s'associer.
C'est sympa. Pour
le terme condamné, bon, je sais pas, on sait pas comment ça va se passer avec notre radio, mais enfin, c'est vrai qu'on n'a pas choisi, ni eux ni nous, d'avoir associé avec eux.
Qui c'est Alpe 1 ?
Radio Alpe 1, c'est une radio d'Annemasse. Donc de l'autre côté de Genève par rapport à nous, complètement symétrique. Alors c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle je dis condamné à s'associer, parce qu'on est des radios de pays différents, mais à cause des problèmes frontaliers, à cause des lois sur les radios, on ne peut pas exister chacun indépendamment. Enfin, bon, ça on reparlera de ça donc la semaine prochaine sur Déviation. Bonsoir.